Bon matin tout le monde. Ce matin, le message que j'aimerais apporter, c'est au sujet de la repentance. J'avais plusieurs questions en rapport avec ça personnellement. Pour moi, c'était quoi la vraie repentance? Et puis, une repentance biblique, authentique. Et puis, j'ai pris mes idées, je les ai mis comme ça dans le message et j'espère que ça va vous intéresser comme pour moi, ça a été utile. D'approfondir ce sujet-là qui est quand même important pour la croissance spirituelle, de savoir ce que c'est, ce que c'est pas. Et quand on réalise que le rôle que la repentance avait, Jean-Baptiste avait annoncé la bonne nouvelle en appelant les gens à se repentir. Et puis de penser que, ici j'ai mis dans Matthieu 4, 17, que c'était parmi les premières paroles du ministère public de Jésus sur terre qui annonçait la repentance. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, au tout début de son ministère, c'était le début de son message, et aussi à la toute fin de son ministère, c'était aussi le message dans Luc 24, il leur dit, qu'il devait mourir aux disciples d'Emmaüs et puis ressusciter, que c'était prévu. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, à la toute fin, il revient encore sur l'importance d'annoncer, d'appeler tous à la repentance. Dans Actes 17, on lit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Fait que ça a quand même une grande importance. Et puis de comprendre qu'est-ce qu'il en est de la repentance, qu'est-ce que c'est, et aussi de réaliser que dans notre société, c'est pas un sujet qui passe bien. On va parler plus facilement de la dignité de l'homme plutôt que la déchéance morale de l'homme. On va parler de la bonté de l'homme plus que sa méchanceté. On va défendre l'homme par le comportement humain, en expliquant que c'est son éducation, ses expériences, ses malheurs qu'il a vécu, plutôt que d'appeler à confesser les péchés. Et puis, tout le monde s'attend, s'il y a un ciel, tout le monde s'attend à y aller. Et puis, sont rares ceux qui entrevoient avoir des difficultés dans l'au-delà, s'ils pensent à un au-delà. C'est donc dire que le besoin de repentance, c'est pas perçu comme étant important, et pourtant dans la Bible, ce l'était. Donc, je pense que c'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler. Et puis, s'il faut en parler, ben il faudrait bien savoir ce que c'est, ce que c'est pas. Puis, il y a beaucoup d'opinions différentes, de controverses au sujet de la repentance. C'est pour ça que je vais essayer de m'en tenir à vous présenter des versets qui sont clairs, qui sont dans la Bible, et puis pour essayer de me coller proche au texte biblique pour m'assurer de ne pas me tromper ou le moins possible. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir une conception de la repentance qui n'est pas biblique. On peut penser que faire le ménage de sa vie, et c'est se repentir, mais pas nécessairement. D'avoir du remords, d'avoir de la contrition, d'avoir du regret, que c'est se repentir, mais pas nécessairement. De faire un effort pour mettre Dieu dans sa vie, ben je vais aller à l'église, puis je vais m'impliquer, parce que dans le fond, Dieu comprend, j'ai une dépendance, moi, puis je suis pas capable de m'en débarrasser, de l'abandonner. Et que ça, c'est la repentance que de prier ou de lire sa Bible, tout en conservant le mal dans sa vie. Donc, il y a plusieurs façons de se tromper sur la repentance. C'est pour ça que je pense que ça vaut la peine d'en parler. Mais en commençant, j'aimerais ça qu'on prenne un temps pour prier, de demander sincèrement à Dieu qui nous guide. Prions. Merci Seigneur qu'on puisse s'approcher de toi, réfléchir ensemble et on te prie maintenant que tu nous ouvres le cœur, nous rendes sensibles à ta parole, à ta volonté. Et travaille en nous Seigneur, on te prie, dans le nom de Jésus que tu touches nos cœurs. Pour ta gloire. Amen. Donc, c'est ça, si on regarde simplement la racine du mot repentance, c'est metanoia en grec, ça la survient 33 fois, et puis ça signifie un changement d'idée. Mais quand on regarde l'utilisation du mot, dans le contexte, dans les versets de la Bible, on s'aperçoit que c'est plus qu'au niveau des idées. Mais c'est sûr que c'est un changement d'idée. Mais ça déborde, ça dépasse le simple changement d'idée. C'est un changement d'attitude face à notre comportement. Fait que si je change d'attitude face à mon comportement, il devrait aussi avoir des changements de comportement qui vont s'en suivre. Et j'aimerais présenter quelques versets à ce sujet-là. C'est Paul, c'est Jean-Baptiste qui demandait, il disait « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Pas juste d'avoir le regret, mais d'avoir aussi des fruits qui prouvent que la repentance est sincère. « Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Donc les Juifs avaient ce piège-là, facile, parce qu'ils étaient Juifs, descendants, la génétique d'Abraham, ben Dieu devait aussi les accepter comme ça, qu'ils aient la repentance ou non. Et peut-être même qu'on pourrait avoir ce pli de pensée-là, de dire que, ben parce que moi je vais dans telle église, parce que moi je fréquente tel chrétien, que si on n'a pas la repentance, que le simple fait de venir de telle famille soit suffisant. Il dit non, il faut aussi porter des fruits de la repentance. Puis on le voit avec la suite du verset, du passage, ça c'était le verset 8, au verset 10, là les foules l'interrogeaient disant, que devons-nous faire? En comprenant que pour porter les fruits de la repentance, ça devait affecter le comportement. Il leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et c'est énorme cette demande-là. Ça vient nous chercher, ou ça devrait venir nous chercher tous. Si j'ai plus, je dois partager avec celui qui a moins. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Et c'est comme ça, par ces comportements-là, qu'on va voir s'il y a des fruits, si la repentance est authentique. Il vient aussi des publicains. Fait que là, on a la foule, ensuite on a des publicains, pour être baptisé, lui dire « Maître, que devons-nous faire encore ?» Comprenant qu'il devait avoir des fruits qui accompagnent la repentance. Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Et là, j'ai coupé l'extrait, mais on voit que les trois groupes demandent « Que devons-nous faire ?» Comprenant qu'il y avait des comportements qui devaient découler de la repentance. Et Paul aussi est dans la même ligne. On voit dans Actes 26, au verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez tous les païens. Donc, à tout le monde, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. C'était pas juste ça, c'était aussi ce qui devait découler avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, c'était plus qu'un changement d'idée. C'est ce que je voulais exprimer ici. Si je dispose là, un petit peu métanoïa, c'est au niveau étymologique de la racine du mot, ça parle d'un changement d'attitude. Mais on voit aussi que c'est accompagné de porter des fruits, de produire des fruits dignes de la repentance, que celui qui a deux tuniques, ben, il y a des implications. Et là, je me demandais, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un porte pas des fruits, que sa repentance est nécessairement fausse? Ça peut m'arriver de manquer de fruits, de tomber. Qu'est-ce que ça veut dire sur le la réalité de ma repentance. Fait que c'est une question qui m'intéressait pour moi personnellement. Fait que j'aimerais ça qu'on regarde aussi, qu'on passe un temps pour comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il en est de la repentance, de ce que c'est. Et puis, je vais revenir à cette question-là de celui qui pêche régulièrement, de celui qui tombe. Fait que en regardant, ici, on a différentes composantes qui font partie de ce que c'est la repentance. Il y a une composante intellectuelle, émotive et au niveau de la volonté, volitionnelle. Et c'est toutes des composantes, je pense, qui sont nécessaires à la repentance, mais pas suffisantes. C'est pas juste ça. Au niveau de l'intellect, oui, peut-être avant de devenir chrétien, je rejetais Jésus, où j'étais indifférent envers Jésus, mais maintenant, mon attitude a changé concernant Jésus. Avant, j'aimais mon péché, maintenant, je comprends que ça l'offense Dieu et que ça va finir par me faire du mal, même si la tentation est très invitante. Mais c'est donc, j'ai compris des choses intellectuellement, mais c'est plus que de comprendre intellectuellement. Je peux comprendre que la Terre est ronde, mais ça ne change pas grand-chose dans ma vie, tandis que de comprendre des choses au niveau de mon comportement, ça devrait découler, comme je le disais, au niveau de ma conduite. Fait que c'est nécessaire de comprendre des choses, mais c'est pas suffisant. Il y a une partie émotionnelle aussi. Il y a une tristesse, un remords, un regret. C'est très bon, mais c'est plus que ça. C'est bon d'avoir des émotions qui vont en rapport avec nos péchés, un cœur contrit, un esprit humilié. Les sacrifices, on lit dans le psaume 51, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas, un cœur brisé et contrit. Mais on peut avoir aussi beaucoup de tristesse, de remords et de regrets, comme je le mentionnais, et pas en train de se repentir. Si on regarde ici un passage où Paul écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 7, 8, et là, il parle de la tristesse en lien avec la repentance. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Là, il fait un petit jeu de mots. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je m'en réjouis à cette heure, non parce que vous avez été attristé, mais parce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Fait qu'on voit qu'il peut y avoir une association là, que la tristesse conduit à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu. Fait qu'il y a ce type de tristesse-là, selon Dieu, qui appartient à la repentance, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, qui conduit. Fait que la tristesse amène à la repentance, qui amène au salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, et là on voit qu'il y a une autre forme de tristesse, très réelle, qui produit la mort. Donc, qui fait pas cet effet-là de produire le salut, de conduire au salut. Il y a des gens dépressifs, suicidaires, qui sont très tristes. Le monde est triste, lutte contre le désespoir, et puis tente de toutes les manières d'inventer un sens à la vie qui n'en a pas de sens sans Dieu. Et qui tente de le meubler avec toutes sortes d'espoirs. Donc, oui, il y a une tristesse. Et puis, on sait aussi que les émotions peuvent être trompeuses. Les émotions sont changeantes aussi. Quand les gens sont confrontés avec les conséquences de leur péché, la culpabilité, la honte, oui, il y a de la tristesse. Et puis là, ils sont pris de remords. Et puis... il y a des grandes déclarations convaincantes. Non, non, c'est fini, moi plus jamais. Et puis, les gens souffrent tellement là, des conséquences de leur choix là, qu'ils font des belles promesses. Et puis là, quand la crise est passée, quand la tension est partie, l'humiliation est soulagée, la tentation revient. Là, ils regrettent de s'être repenti. Et ils veulent reprendre leur ancienne vie. On voit l'exemple du jeune homme riche. C'est pas un exemple comme celui-là, d'une émotion trompeuse, Mais le jeune homme riche était intéressé par la vie éternelle. Et quand Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme riche s'en alla, tout triste. Il y avait des émotions de tristesse, mais c'était pas suffisant pour être de la repentance. Il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ésaü aussi, le frère de Jacob. On lit dans Hébreux 12 qu'il n'y a ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. Il y avait énormément de tristesse. Il était trop tard. Et c'était une repentance tardive ou. Mais ce n'était pas une repentance biblique, c'était trop tard. Car il ne put amener son père à changer de sentiment. Alors c'est bon d'avoir un esprit contrit, un cœur humilié, mais il faut que la repentance vienne de Dieu et soit selon Dieu. Cette tristesse-là, on peut penser à Judas qui a eu énormément de tristesse aussi, au point de suicider. Mais c'était une tristesse ici du monde qui produit la mort, comme disait Paul aux Corinthiens. Donc, on a la composante intellectuelle, émotive, mais on a aussi celle qui touche la volonté. Donc, de vouloir, qui implique ce changement d'attitude-là, nous amène aussi à prendre des décisions. Puis c'est ça, mais c'est aussi plus que simplement prendre des décisions. Il y avait un homme qui avait beaucoup de succès dans sa vie professionnelle, mais sa vie personnelle, c'était un fiasco. Et puis, il est venu à l'église, et puis, il s'intéressait au salut, puis, on l'a invité à recevoir Jésus, à se tourner vers lui, puis il a dit, oui, ça m'intéresse, je veux, mais je voudrais prendre un petit peu de temps pour mettre de l'ordre dans ma vie. Je vais faire le ménage. Et puis, on lui a dit, oublie ça, ça marche pas comme ça. C'est, tu viens, tu, de mettre, t'appliquer ta volonté pour toi-même régler ton problème. C'est très gentil, là, c'est très bien, mais ça marche pas comme ça. Puis, un verset dans Jérémie qui s'applique dans cette situation-là. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien. Peut-il changer sa peau noire, tu sais, elle va rester noire tout le temps, et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Fait qu'on a cette nature-là, on peut vouloir pour un temps mettre de l'ordre dans notre vie par la force de notre volonté, mais on ne changera pas l'intérieur. Il faut venir à Jésus. C'est lui qui doit nous transformer, faire un miracle, nous donner une nouvelle nature, une nouvelle naissance, et faire le travail de salut dans notre cœur. Oui, on a à consentir par la volonté, mais c'est à lui à faire le travail, puis ça va être la vraie repentance. Donc, on a les trois composantes ici. Et concernant la volonté, c'est ça, la repentance, c'est pas de faire un acte de pénitence, comme on a certains de nous appris, d'une souffrance volontaire pour punir nos péchés, puis repayer pour mon mal, puis je vais compenser ou réduire ma culpabilité, contribuer à mon salut. C'est vraiment pas ça. C'est bien de vouloir faire le bien et d'éviter de faire le mal ou de réparer le mal qu'on a fait, mais si je pense plaire à Dieu par mes actes de pénitence, alors pourquoi est-ce que Jésus aurait eu besoin de mourir sur la croix? Si je peux contribuer à mon salut ou le mériter, c'est une insulte envers Jésus en disant, écoute-toi, c'est pas suffisant ce que tu as fait, ou c'était même pas nécessaire. Moi, je pouvais me reprendre en main. C'était pas complet ce que tu as fait à la croix, et puis je peux le compléter. Donc, on voit qu'il y a des ingrédients qui sont nécessaires, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça vienne vraiment de Dieu. Et pour être sauvé, ça doit venir de l'action de Dieu. Et c'est ça qui m'amène à parler d'un fait étrange au sujet de la repentance, c'est que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui la donne. C'est un peu paradoxal, ou difficile à comprendre, c'est que Dieu nous demande, il nous ordonne de nous repentir, mais il dit, c'est moi qui va la donner. Fait que c'est toute la controverse entre les calvinistes arméniens, les arméniens qui pensent que l'homme est capable de se ressaisir et de croire en Dieu, de venir à Dieu. Et l'autre, les calvinistes qui disent « Non, Dieu doit d'abord me donner la vie spirituelle à moi qui étais mort spirituellement pour que même je puisse me repentir et même avoir la foi. » Fait que je vais quand même vous montrer quelques versets qui parlent de la repentance comme étant un don de Dieu. Dans Actes 5:31, Dieu l'a souverainement élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est Dieu qui donne la repentance. Et Actes 11, là c'était Israël, là c'était pour les païens. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, pas simplement à Israël. » Dans Romains 2:4, « Où méprises-tu les richesses et la bonté de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc, ça vient de Dieu. On pourrait continuer. 2 Timothée 2, 24-26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Pour arriver à la connaissance de la vérité, que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ils étaient captifs de la volonté du diable. Il fallait que Dieu leur donne la repentance. Fait que, oui, c'est difficile à réconcilier tout ça, qu'on a une part de travail à faire. Et de nos côtés, c'est Dieu qui nous le donne. Et il nous exige, il nous ordonne de nous repentir. On peut penser à l'exemple de Capernaum et Bethsaïda. Dans Matthieu, Jésus leur dit, alors il se mit à faire des reproches. On pouvait parler des reproches au niveau de la repentance, même si c'était un don de Dieu. Des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Fait qu'il y a une réponse de l'être humain, puis il y a au don de Dieu. Mais il dit pas qu'il nous donne juste la capacité de se repentir, il nous donne la repentance. Mais il nous appelle tous à se repentir, et puis donc je veux pas... ignorer le fait qu'on a une réponse à donner. Et il dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Fait qu'au jour du jugement, il y aura beaucoup de personnes qui auraient donc voulu passer par cette porte étroite qui est le salut en Jésus et qui avaient à s'efforcer donc à y entrer. Puis on sait, on a connu des personnes qui... Nous-mêmes, quand on est devenu chrétien, il y a eu un temps de lutte intérieure, de décision, de choix déchirant qu'on a eu à prendre dans cette repentance-là, puis de dire non à des choses, mais c'est aussi un don de Dieu. Comme la foi. La foi aussi, comme la repentance, est un don de Dieu. Puis Jésus pouvait dire aux gens, aux habitants de Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. J'aurais voulu que vous veniez à moi, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, il avait rejeté cette foi-là, c'était donc une décision, mais que la foi est un don, malgré tout. Dans Actes 14, verset 27, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait, Dieu, ouvert aux nations la porte de la foi. C'est Dieu qui ouvre la porte de la foi. Dans 2 Pierre, on lit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » Notre foi a le même prix que celle de Pierre, mais c'est quelque chose qu'on reçoit. On reçoit en partage une foi. Il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, donc une grâce, une faveur qui nous a été faite de croire, mais encore de souffrir avec lui. C'est un cadeau qui nous est fait de croire et de pouvoir souffrir avec lui. Fait que c'est mystérieux pour moi, c'est difficile à comprendre. Mais j'ai pas à le comprendre, j'ai simplement à l'annoncer, inviter les gens à la foi, inviter les gens à la repentance et à croire à l'offre du salut en Jésus. Et puis on a d'autres exemples ici, Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, on a la nécessité d'un travail de Dieu qui donne ce salut-là. Et celui-là qui est fort, là, Actes 13, 48, « Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » On y est destinés. Prédestiné, élu, choisi. La foi comme la repentance est un cadeau de Dieu. Et puis, ça m'amène à la question. Tout ça pour dire, j'ai l'air de m'éloigner de mon sujet de la repentance, là, mais en parlant du salut, est-ce que la repentance est nécessaire au salut? Et ça fait aussi controverse. Et on est habitué de penser, non, le salut, c'est par la foi seulement. Et comme ici dans Jean 3, 16, le verset connu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est en croyant en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, et celui qui ne croit pas, est déjà jugé. Avec le gardien de prison, à Philippe, Paul et Sylas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Fait que là, de dire que est-ce que la repentance est nécessaire au salut, ça semble poser problème, si c'était le cas. Mais ici, j'ai des versets qui disent, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Acte 3, 19. Pour que nos péchés, ça semble être une condition de se repentir, pour que nos péchés soient effacés. Et on avait lu ce passage-là dans 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Et que cette repentance-là était nécessaire pour produire le salut. Fait comment harmoniser réconcilier ces questions-là, est-ce que la repentance est nécessaire? Pour être sauvé, bien, il y en a qui proposent, des commentateurs, la réponse de dire que oui, la repentance et la foi sont deux choses distinctes. Par contre, les deux choses vont souvent la main dans la main. C'est comme les deux côtés d'une même médaille qu'on retrouve ensemble. Et on pourrait dire ici, j'ai mis donc la métanoïa, le changement d'attitude avec ses composantes qui produit des œuvres, des fruits dignes de la repentance et le salut, comme les versets que j'ai mentionnés, « Repentez-vous pour que vos péchés soient effacés » et une repentance à salut, mais que tout ça donc appartient dans la vraie foi qui sauve. Fait comme l'expression qui dit « le seul la foi sauve », seule la foi sauve. Mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Il va y avoir des fruits dignes de la repentance. Et la repentance fait partie du portrait. Puis on peut penser à Zachée, qui était un collecteur d'impôts, qui était grimpé dans un arbre. Puis là, Jésus se tourne vers lui, l'invite. « Je dois aller manger chez toi. » Et puis Zachée est touché dans son cœur. Et dit, voici Seigneur, je donne le double de tous mes biens, la moitié de tous mes biens. Et avec l'autre moitié, il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et là, Jésus rajoute, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc, l'expression de cette repentance-là, puis des fruits dignes de repentance, de vouloir réparer le mal qu'il avait fait, le tort qu'il avait causé aux autres en leur donnant le quadruple, bien, était un signe que le salut était rentré dans sa maison. C'est comme ça que je réconcilierais ces deux choses-là, que la repentance vient avec la foi qui sauve. Et juste pour dire que si les deux vont ensemble dans Actes 20, 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi, que les deux vont ensemble en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Que la repentance n'est pas éloignée de cette notion-là du salut, du pardon des péchés, que ça va, les deux vont ensemble, les deux côtés d'une même médaille. En résumé, ce que j'ai couvert là, jusqu'à présent, c'est de dire que la repentance est un changement d'attitude envers Jésus, envers son œuvre, envers nous, envers nos péchés, qu'on change d'idée, change de conviction. La repentance implique l'intellect, les émotions et la volonté. La vraie repentance est accompagnée d'un changement de comportement, et la vraie repentance est nécessaire au salut, ça vient avec la foi. Est-ce que je dois me repentir de tout le mal que j'ai fait, qu'on a pu faire? Peut-être que j'en suis pas conscient, mais quand je vais en devenir conscient, ma réaction de repentance devrait ressortir et devrait me suivre dans toute ma vie. C'est un élèvement de la vraie repentance de continuer. Peut-être que je connais pas tout, mais quand je vais le connaître, tout ce que je vais connaître de mon comportement, de moi-même, et de Dieu, mais je vais me mettre en règle. Et là, la question se pose, à savoir si la vraie repentance est nécessaire au salut. Quand tu es venu à Jésus, et dans ta vie, est-ce que tu as ce changement d'attitude face à ton comportement? Est-ce qu'il y a eu des fruits de ce changement de comportement? Est-ce qu'il y a eu une émotion de tristesse face à ce comportement? De volonté de pouvoir réparer ou changer le comportement. Est-ce qu'il y a eu une repentance? Et est-ce qu'il y en a une encore? Et donc, j'aimerais ça qu'on en vienne à la question ici. Que penser de ceux qui ont des difficultés avec des rechutes continuelles? Parce que, ça dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Mais si j'ai des problèmes d'alcool, que j'arrive pas à... j'arrive difficilement à surmonter, puis je retombe dedans, la cigarette, la drogue, la pornographie, ou toute forme de dépendance comme ça. Est-ce que je peux dire que j'ai la pratique d'œuvres dignes de la repentance? Pour répondre à ça, j'aimerais juste apporter une petite correction ici. Là. Vous voyez, j'ai écrit à la main. Là. Que penser de ceux? Mais c'est que penser de tous. On a tous ce défi-là. D'avoir des rechutes. Des péchés persistants. Des comportements avec lesquels on lutte. On est tous dans un processus de sanctification. Même si Dieu nous voit parfaitement justifiés par le sacrifice de Jésus, peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes péchés, on ne lutte pas avec les mêmes choses. Et certains sont plus apparents que d'autres. Mais ça dit dans 1 Jean 1:8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. On est des menteurs. On est menteurs si on dit qu'on n'a pas de péché. Peut-être que certains luttent avec des péchés sexuels en personne, et d'autres, c'est en pensée. Ça paraît moins. Peut-être que certains ont des crises de colère en personne, aux yeux de tout le monde, et d'autres, c'est en pensée où est-ce qu'il y a beaucoup de colère, de la rage, de la haine, pour une autre personne, des pires encore en pensée que l'autre fait aux yeux de tout le monde. On sait que Jésus a élargi la notion de péché pour inclure les pensées, les motifs, pour qu'on ait tous conscience du péché, de notre besoin de repentance. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces péchés récurrents, répétitifs? Et est-ce que c'est la pratique d'œuvres dignes de repentance? Comment penser? Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Et je pense qu'on est appelé, face à ces péchés-là, à avoir une repentance sincère, sur le plan de intellectuel, émotionnel, cette tristesse profonde en rapport avec ça, et aussi de la volonté. Mais on sait qu'il y en a qui ont une volonté faible ou un manque de sagesse incroyable. Et puis, dans l'utilisation du temps, dans l'utilisation de l'argent, ils vont dépenser... Il n'y a pas de volonté pour se retenir de dépenser... au point de se mettre dans des problèmes importants, ils n'ont plus assez à manger, ils font faillite, et ils dépensent follement. Mais ils se repentent, ils s'en humilient, ils cherchent de l'aide, peut-être dans un groupe maison, et Dieu les transforme graduellement, puis ils changent avec le temps. Il y en a qui sont changés instantanément, au moment de la conversion. Puis il y en a d'autres que c'est progressivement. Puis au début, ils pouvaient revenir, ces luttes-là pouvaient revenir 100 fois par semaine. Et après quelques mois, c'est peut-être 10 fois par semaine. Et puis là, finalement, ils deviennent libérés. Il y avait des péchés, donc grossiers, dans leur comportement sexuel. Et puis leur colère... Et puis, ils peuvent peut-être glisser occasionnellement, deux fois par année, mais il y a une progression. Il y a cette sanctification-là. Et puis, au moment de la conversion, puis c'est beau de voir ça chez un nouveau chrétien, c'est comme un diamant brut. Bien, c'est comme une roche, un diamant brut, quand on le découvre dans nature. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de beauté. C'est un caillou. Puis avec le temps, les joailliers, ils vont le polir, ils vont couper ici, puis là, il y a une autre facette. Et puis là, avec le temps, ça devient de plus en plus clair et de plus en plus de reflets dedans. Et la lumière, la vie de Jésus, on pourrait dire, pour le nouveau chrétien, avec le temps, il laisse passer de plus en plus la personne de Jésus à travers lui. Mais c'est la même roche qui avait autant de valeur au début de la conversion que maintenant, mais qui est plus efficace pour laisser transparaître la personne de Jésus. Fait qu'on n'a jamais fini avec les luttes dans notre corps, dans notre chair, puis le Saint-Esprit nous raffine. Il raffine son travail de sanctification dans notre vie. Il ne nous corrige pas complètement tous au moment de la conversion, mais il va corriger ces péchés grossiers-là, puis il va mettre en lumière après ça des pensées secrètes, des motivations qu'on ne connaissait même pas. Pourquoi est-ce qu'on faisait des bonnes œuvres peut-être, mais pour des mauvais motifs? Et puis il va continuer à mettre en lumière de plus en plus pour nous faire progresser dans la sanctification. Et ce qu'il faut, c'est de montrer le même zèle à se repentir pour les péchés grossiers, et aussi pour les péchés moins évidents. Les deux sont graves, mais d'avoir le même zèle, même quand ça paraît pas, même quand c'est caché. Et Benoît Lavergne m'avait offert cette liste-là, là, les caractéristiques d'une repentance biblique. Et donc, que même face aux péchés subtils, plus moins apparent dans ma vie, je dois avoir une prise de conscience profonde de la gravité de mon péché. Et dire oui, c'est vrai, Seigneur, c'est pas correct, cette pensée-là, cette intention-là, cette parole-là. Une acceptation de sa responsabilité personnelle. Oui, c'est moi qui ai fait ça et je suis responsable de ça. Et je me l'approprie, ça m'appartient, ça. Une compréhension appropriée de toutes les personnes qui ont été offensées. Puis de faire un inventaire. Qu'est-ce que j'ai fait comme dégât? Et peut-être que dans mes pensées, ça ne l'est pas, mais je ne peux pas avoir cette pensée-là, même dans ma pensée, dans ma tête, qui déplaît à Dieu, qui déplairait si c'était au vu de tout le monde. Tous les secrets du cœur vont être exposés devant tous un jour, nous disait Jésus. Donc, il y a une confession humble et précise, et si c'est au niveau de la pensée, je peux la confesser au Seigneur, de dire oui, c'est vrai, et c'est une pensée d'orgueil, une pensée de jalousie, d'envie, de convoitise. Une autre composante, c'était une volonté, une bonne attitude à accepter les conséquences de son péché. Je trouvais ça utile et pratique, cette liste-là, pour identifier qu'est-ce que c'est la repentance, une vraie repentance authentique et biblique. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on ait ces luttes-là contre le péché? Pourquoi est-ce qu'il ne nous transforme pas tout de suite? Je ne sais pas vraiment, mais j'imagine que c'est utile pour nous garder humbles, pour nous garder dépendants. Puis cette reconnaissance-là que moi, je ne suis pas capable, dans ma chair, il n'y a rien de bon que nous dit la parole. Mais Jésus habite en moi et j'ai besoin de son aide. Et ces péchés-là qui reviennent et qui me forcent à me tourner vers le Seigneur pour avoir la victoire et continuer à grandir, me rappellent que j'ai besoin de dépendre de lui. Et peut-être aussi pour être plus patient et compréhensif envers les fautes des autres qui ne sont pas les miennes, qui ne luttent pas avec les mêmes choses, mais que j'ai quand même les miennes, et puis je peux comprendre que c'est pas facile. Être plus patient. J'aimerais ça parler, en finissant, qu'il y a comme un piège quand c'est un péché qui est moins apparent, un péché qui semble plus respectable. Et puis il y avait ce type-là, Jerry Bridges, qui avait écrit un livre, Respectable Sins, les péchés respectables. Et puis il y a des péchés qui passent facilement sous notre radar, qui peuvent paraître plus acceptables, moins apparents aux yeux des autres. Et tout comme il y a des bonnes œuvres qui paraissent plus devant les autres, et puis bon, hein, tu sais, c'est bon, nous autres, hein, ça va bien. Et que hey, le même zèle envers tous les péchés, de ne pas faire d'exception, pas de passe-droit. Si c'est mal, c'est mal. Si c'est un virus, c'est un virus. Un petit virus, gros virus, c'est un virus. Le virus doit partir, le mal doit être chassé, doit être combattu. La liste des péchés respectables que M. Bridges nous donnait, c'était comme par exemple un manque de piété, qui est l'amour pour Dieu, ou l'ingratitude envers Dieu ou envers les autres. D'être anxieux, inquiet, soucieux pour beaucoup de choses, puis qui nous dit « ne vous inquiétez de rien ». D'être frustré, d'être mécontent, bougonneux, en pensée peut-être seulement, orgueilleux, l'égoïste, manque de contrôle de soi. Je pense à la gloutonnerie. C'est comme un péché avec lequel je lutte. Et que je dois prendre au sérieux, parce que le Seigneur le prend au sérieux, les acceptables, un manque de contrôle de soi, l'impatience, l'irritabilité, la colère. En parlant de la gloutonnerie, je trouve ça intéressant de voir qu'il y en a qui n'ont aucun problème avec ça, qui ne sont pas du tout tentés par ce type d'affaires-là, mais peut-être par l'inquiétude. Fait qu'on a tous nos bibites. Adresser nos virus, la colère, les racines de colère, un esprit de jugement, de critique. Puis là, on voit tout le temps le mauvais côté chez la personne. l'envie, la jalousie, ou qui peut être des péchés qui en découlent, comme la compétitivité, être contrôlant, les péchés de la langue, la calomnie, la médisance, des paroles blessantes, un amour pour les choses du monde. Ça paraît pas beaucoup, mais le monde habite en nous. Puis on aime ça. On aime le monde. Fait que c'est des péchés qui font pas scandale. Mais donc, ça devient un piège parce que ça dérange pas. Ça dérange pas nous autres, ça dérange pas alentour, mais ça dérange le Seigneur. Et donc, d'avoir le même zèle pour ça. Et puis, je trouve ça beau de voir la réponse de Paul envers les Corinthiens face à leur tristesse qui mène à salut. Là, le texte qu'on avait dit au verset 11, ça dit « Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit chez vous? Quelle justification ils sont mis en règne, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. » Et donc, ce même zèle-là, cette même attitude, qu'on devrait avoir une tristesse selon Dieu face à nos péchés subtils et cachés, intérieurs, et persévérer, continuer dans notre sanctification, devrait donc se manifester par un empressement, un même zèle. Et sinon, ça devient un piège pour nous. Et peut-être pour... l'illustrer, puis je termine avec ça, là. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. C'est un collecteur d'impôts, c'est une question. Quelqu'un qui est rejeté par la société juive. Le pharisien debout, c'est un membre d'une secte juive qui était ultra puriste. Fait que lui, debout, priait en lui-même au temple. « Ô Dieu, je te rends grâce. » Fait que là, bon, gratitude, c'est beau, « que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Fait que lui, peut-être qu'il avait des péchés plus raffinés. Fait que les autres sont ravisseurs, injustes, adultères, ça paraît, c'est grossier. Ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne deux fois par semaine. Fait qu'il y a des bonnes œuvres qui paraissent bien. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et qui ne portait pas attention justement à ses péchés acceptables ou plus respectables. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel et se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et donc on voit cette tristesse selon Dieu face à ses péchés. Peut-être le péché d'être publicain, mais peut-être le péché simplement ses péchés intérieurs plus caché, moins apparent. Je vous le dis, celui-ci descendit, le publicain, dans sa maison justifié à cause de cette attitude-là de repentance. Et la repentance, ça nous paraît amère. Tu sais, c'est une tristesse, c'est pas... Mais c'est bon, c'est bien de se rapprocher du Seigneur, puis de reconnaître notre dépendance, de prendre sa place auprès de lui. J'ai besoin de toi, aide-moi face à ça, puis... J'ai donc besoin de ton secours, de ton aide. Et c'est béni, je pense, de s'approcher de Dieu sur cette base-là. Et donc, en termes d'application, je pense qu'on peut se poser la question, c'est quoi mon empressement, mon zèle, à vouloir me tenir en règle? Face à Dieu, à vouloir dans mes pensées. Est-ce que je l'aime comme je devrais l'aimer? La repentance est amère, mais le fruit en est doux. Et puis de répondre par une conscience sensible et au Saint-Esprit qui travaille en nous. Hein? Paul disait ça, tu sais, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. Qu'il voulait mettre en règle tout de suite, à fond. Et ça dit, Paul disait aussi ailleurs, « Efforçons-nous de lui être agréable » dans 2 Corinthiens 5, 9. Ce zèle-là de lui être agréable, pas simplement agréable à ceux qui nous entourent, à l'Église, dans notre famille, mais agréable à Dieu. Un autre « efforcez-vous » que Paul disait, c'était « efforce-toi à Timothée de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » Que Dieu nous donne ce zèle-là, cette volonté. Terminons en priant. Seigneur, on t'invite par le Saint-Esprit à travailler dans les confins, dans le fond de notre cœur pour nous donner cette repentance-là, à nous tourner vers toi d'un cœur entier, à goûter cette tristesse-là pour pouvoir recevoir ton aide, ton pardon, être réconcilié et pouvoir continuer à progresser dans notre sanctification. On te prie pour cette bénédiction dans la puissance de notre Sauveur Jésus. Merci que tu nous aimes aussi. Amen.